À plusieurs reprises depuis ce matin, nous avons évoqué le rapport entre le droit et l'éthique. Respect du droit, respect des personnes, respect des valeurs. S'il est vrai que l'un ne saurait exclure l'autre, une question s'ouvre et que M. Pierre-Brice Lebrun, juriste, vient mettre au travail avec nous. Comment accompagner les parents pour protéger l'enfant dans le respect des droits de chacun? Merci.
Voilà, puis sinon, en direct de la grève SNCF, mon collègue de tout à l'heure ne peut pas venir. Moi, je suis venu, mais je ne peux pas repartir. Ça n'intéresse personne, mais je voulais vous faire partager ma joie d'être ici sans vêtements, sans trousse de toilette, sans brosse à dents. Voilà, voilà. En même temps, pour venir, tout se passait bien. Donc, c'était louche. Donc, nous allons aborder cette... c'est très joli, là. Et pas de moi, la phrase, hein, le comment, tout ça. On va essayer d'aborder ça d'une manière juridique, dans le temps qui m'est imparti, une heure, donc. Hein.
45 minutes.
Ouais, ben tiens. Passons pas où j'en suis aujourd'hui. Donc, 45 minutes. Ce sera le même prix, donc. La meilleure façon d'accompagner les parents pour protéger l'enfant en respectant les droits de chacun, c'est de respecter les droits de chacun. Et le gros souci, c'est que les droits de chacun, mais les vôtres aussi, sauf que là, vous êtes en situation professionnelle, on parle des familles, ne sont absolument jamais respectés, et de moins en moins. Et plus on parle de les respecter, moins on les respecte. C'est un vrai souci, parce que c'est très bien de parler de parentalité, des dessins, des machins, c'est magnifique. Mais à partir du moment où on bafoue les droits fondamentaux de l'enfant et de ses parents, la parentalité, comment vous dire? Et la première solution peut-être pour que les gens se sentent en confiance, écoutés, valorisés, c'est de respecter leurs droits. Et c'est vraiment jamais fait pour plusieurs raisons. Alors déjà, on va faire quelques explications théoriques, mais déjà, pourquoi les droits ne sont pas respectés? Il y a deux raisons principales. La première, c'est la méconnaissance de la matière juridique par les professionnels de l'action sociale et médico-sociale, qui ont assez rarement lu des livres de droit, et c'est dommage, parce que j'en écris, par exemple, qui sont très bien, que je vous conseille et qui sont en vente libre, pour pas cher, édités par les éditions Duno. Mais la connaissance du droit... passe souvent de bouche à oreille, c'est-à-dire qu'on fait ce qu'on a toujours fait, et tout le monde le sait, hein, la phrase d'une chef de service, « Monsieur, j'ai 35 ans d'expérience dans la protection de l'enfant, je connais ça sur le bout des doigts. » Moi, personnellement, je ne vais pas voir un dentiste qui n'a que 35 ans d'expérience s'il n'a pas fait des études de dentiste avant. Vous voyez, j'aurais un doute. Et donc c'est une phrase de Coluche, hein, c'est peut-être 35 ans de travers qu'elle répète en formation en expliquant « c'est comme ça qu'on fait, c'est comme ça qu'on fait ». Les travailleurs sociaux... et leur fameuse éthique, ont quand même été jusqu'à inventer le secret partagé. Rien que le mot est une honte, et le fait de le professer ou de le répéter est une seconde honte. Le fait de croire que ça existe est absolument inadmissible. Mais néanmoins, non seulement on pense que ça existe, mais ça se répète. Et il y a même maintenant des structures qui disent travailler en secret partagé. On est dans le gratin de l'imbécilité, là. Et surtout de la méconnaissance du droit. Et ça, c'est un vrai souci. Parce qu'on ne respecte pas le droit des parents, les droits des parents, on ne respecte pas non plus les droits des enfants. Et les structures mettent en place en permanence des protocoles, des procédures qui bafouent les droits fondamentaux, l'autorisation de soins et d'opérer qui n'existe dans aucune loi, qui est un délire de chez vous, l'autorisation de sortie qui doit être signée, la décharge qui n'existe pas en droit français, etc., etc. Tout ça pour emmerder le monde et avoir l'illusion de se protéger de dangers imaginaires. Peut-être vous sentez que ça m'énerve. Et donc la première chose, c'est ça, c'est sûrement la méconnaissance du droit. Et puis il y a une deuxième chose, c'est la trouille. C'est-à-dire qu'on vit dans une société de trouillards, en permanence, et de trouillards qui veulent absolument se protéger. Et comme ils ne savent pas comment se protéger, il y a plein d'autres choses qu'ils ne savent pas, mais au moins ils ne savent pas comment se protéger, ils mettent des gris-gris. C'est en poil de facochère, là. Je veux une autorisation, je veux un mandat, je veux une ordonnance, je veux une signature. Voilà. Ça ne sert à rien, c'est idiot, c'est une preuve non seulement un aveu, c'est même pas une preuve, c'est un aveu de grande incompétence, de vouloir absolument, pour bouger, pour faire quoi que ce soit, avoir une signature. Mais c'est surtout très déstabilisant parce que ça fait vivre tout le monde dans une espèce de situation en permanence anxiogène où il faudrait autoriser, on peut refuser, enfin, tout ça est un petit peu compliqué. Donc en tant que parent, je vous encourage fortement à arrêter de signer toutes les merdes que l'école veut que vous signiez. Envoyez les paître gentiment. Et en tant que professionnel, je vous en prie, foutez-nous la paix, parce que c'est insupportable de signer tous vos trucs et vos machins. Peut-être vous avez besoin d'être rassuré. On avait tout à l'heure un psychosociologue, il y a sûrement très bonnes adresses de professionnels qui vont pouvoir vous aider à gérer tout ça. Mais nous, on ne veut plus, en tant qu'usagers, signer vos merdes. Vraiment, hein. Voilà. Ça, c'est une introduction, on appelle ça. Et ils sont tous en train de se demander, mais de quelle merde ils parlent, parce que... On va quand même revenir à l'essence même du truc. Qu'est-ce qu'en droit ? On a souvent une mauvaise compréhension du mot droit. On va donc reposer la base. C'est extrêmement important en droit au singulier, de faire la différence entre les droits et les devoirs. On va faire un paquet de ce côté-là. Et les obligations et les interdictions, on va faire un paquet de ce côté-là. Ça n'a l'air simple pour personne, puisque même le président de la République, le petit Macron, n'est pas capable de faire la différence entre des droits et des devoirs, puisque ce charmant jeune homme a même dit qu'avant les droits, il y avait les devoirs, et que manque de peau, c'est le contraire. Ce qui est quand même gênant quand on est, comme on dit, au sommet de l'État. C'est-à-dire que la pire des crapules... Je suis peut-être la pire des crapules, il y a peut-être pire dans la salle que moi, je ne sais pas, je ne vous connais pas personnellement, mais la pire des crapules a exactement les mêmes droits que tous les autres. Ça peut paraître contestable, mais le type qui a violé 5 enfants a quand même droit à un avocat et à un procès équitable. On peut dire que ce n'est pas juste, c'est ce qui nous honore de vivre dans une société civilisée et de ne pas être aussi sauvage que lui. Les droits et les devoirs ne sont jamais obligatoires. C'est-à-dire, j'exerce mes droits si je veux, quand je veux, comme je veux. Et les parents ont des droits. Les parents n'ont aucun devoir. Donc arrêtez, je vous en supplie, de leur rappeler leurs devoirs en permanence. C'est les prendre pour des cons et leur dire « Bonjour, tu n'es même pas capable toi-même d'imaginer quel est ton devoir. » Il n'y a pas de devoir dans la loi, il n'y a pas de droits parentaux, il n'y a pas de devoirs parentaux. Les devoirs, ce sont des obligations qu'on s'impose à soi-même. Que l'on s'impose à soi-même. Personne ne peut m'imposer mes devoirs dans une société démocratique. Regardez le droit de vote. Je vote si je veux. Je vote blanc si je veux. Je vote parfois, je vote de temps en temps, je vote jamais. Je peux estimer que voter est un devoir. Je m'oblige à voter. Je peux estimer que ne pas voter est un devoir. Ne soyez pas complice de ces sociétés de baltringues, anarchistes, fincra. C'est mon droit. Évidemment, vous vous sentez peut-être plus proche du gars qui vote tout le temps, voter est un devoir, que du gars qui vote jamais, ou le contraire. C'est votre droit et c'est le sien. Donc les droits, ça se discute, au sens on peut en parler, mais ça ne se discute pas puisque c'est moi qui décide de les exercer ou pas. Il y a eu un débat très intéressant à la présidentielle, le devoir de faire barrage, le devoir du vote utile. Est-ce que, moi je pars du principe que mon devoir au second tour, c'est pas de vider les poubelles des abrutis qui ont voté la salle au premier, si vous voulez. Au bout d'un moment, soyons sérieux. Donc, chacun définit son devoir, et c'est tout à fait intéressant de discuter avec des enfants, des adolescents, pour que petit à petit, eux, définissent leur devoir. C'est la différence entre le gamin qui rentre à la boulangerie et qui dit « bonjour », le gamin qui rentre à la boulangerie et sa mère lui dit « bonjour, bonjour ». On sent qu'il n'a pas intégré le truc. Parce que dire bonjour n'est pas une obligation. Parce que très franchement, je m'en fous hein, que la boulangère passe une bonne journée. Je lui mets 1,10€, elle me donne une baguette. Oui. Simplement, en société, il paraît, moi j'aime pas les gens, mais il paraît qu'en société, c'est quand même beaucoup plus sympa quand on dit bonjour, vous allez bien, merci, bonne journée. Moi, ça m'énerve quand on me dit ça. Mais j'imagine que la boulangère, ça lui plaît, donc on a intégré la norme. On dit bonjour, on dit merci, on dit s'il vous plaît. Et puis voilà. Bon, tout le monde est content. Un devoir, c'est une obligation qu'on s'impose à soi-même et que personne ne peut nous imposer. On est dans de la philo, dans de l'éthique, si vous voulez. On est dans du subjectif. Oui. On peut être pour des droits qu'on n'exercera jamais. Un homme peut être pour le droit à l'avortement, priori, ça ne le concerne pas directement. On peut être pour le mariage homosexuel, même si on n'a pas prévu de se marier, qu'on soit homosexuel ou pas. Ce n'est pas parce qu'un droit existe qu'on est obligé de l'exercer. Par contre, quand il existe, on doit pouvoir l'exercer. Absolument. Donc un enfant a le droit de se soigner, les autorisations de soins et d'opérer l'empêchent de soigner. Un enfant a droit au respect de sa vie privée, les autorisations de soins et d'opérer nient son droit au respect de sa vie privée, puisque pour avoir une signature, on va demander à l'un, demander à l'autre, discuter en équipe, en machin, en truc, et sera dans un dossier. Vous n'accepteriez pas que le fait d'aller voir un gynécologue soit obligé de passer par 3-4 signatures. Mesdames, ça vous saoulerait. L'enfant, il doit. L'usager, en général. On peut continuer comme ça longtemps. Un enfant a droit à avoir une relation sexuelle, des relations sexuelles, même s'il veut, plusieurs. Pas forcément en même temps, mais vous voyez ce que je veux dire. En structure d'hébergement, c'est quasiment impossible. Pourtant, c'est son droit. Alors on m'a déjà dit, non, c'est pas interdit. Mais il peut pas découcher. Et on peut pas faire venir un extérieur. Et ils peuvent pas sortir de leur chambre. Bien sûr. C'est comme, mais oui, ils peuvent faire le ramadan. Sauf que la cuisine est fermée le matin avant le lever du soleil, et qu'elle est fermée ce soir, le soir, avant le coucher du soleil, et qu'il est interdit d'avoir de la nourriture dans les chambres. Et donc, concrètement, ils se débrouillent. C'est un vrai souci. Donc quand on a un droit, on doit pouvoir l'exercer. Il faut non seulement respecter le droit, mais prévoir l'exercice du droit. Alors forcément, les structures, quand vous leur parlez d'ados qui ont le droit de coucher ensemble, sont en PLS. Quand il n'y a pas d'autorisation de soins et d'opérer, tout le monde dit « on va se retourner contre moi ». Et les services de l'ASE maintenant qui veulent deux autorisations de parents, donc les deux parents signent un papier pour aller chez le coiffeur, de peur que les parents se retournent contre eux. Là aussi, on est le seul gratin. Il y a un moment où l'imbécilité devient poétique, si vous voulez, ou artistique. Donc les droits et les devoirs subjectifs, philosophiques, votre éthique, jamais obligatoire, je m'en accommode. Alors il y a plein de réflexions très sympas. En tant que parent, j'ai le droit d'imposer ma religion à mon enfant. Ce qui, d'ailleurs, en parenthèse, est formellement interdit par la loi, puisque c'est du prosélytisme. Néanmoins, quand je le fais baptiser, il a rarement 19 ans. Quand je le fais circoncire, pareil. Donc, a priori, je lui impose ma religion. Est-ce que c'est mon devoir de croyant de lui imposer ma religion ? Pour le bien de son âme. Alors que Dieu n'existe pas, comme vous le savez. Je crois qu'on ne peut pas dire ça. On m'a déjà dit ça. Oui. Pas de politique, c'est ça, et pas de religion. Tout le monde a le droit d'avoir un ami imaginaire. C'est un droit fondamental, on ne critique pas. Merci pour lui. Surtout que c'est pas tous le même, en plus, Donc merci pour eux. Donc est-ce que c'est mon devoir de croyant de lui imposer ma religion ou mon devoir de père de le laisser choisir ? Ça se discute. Là, j'aurais eu une semaine vendredi soir bien chargée, donc j'ai le droit ce week-end de dire à mes enfants, dans votre chambre, faites pas de bruit, papa en a marre, il veut se reposer. J'ai le droit d'aller faire, je sais pas, du golf. Je dis ça pour faire style, mais en fait, ce serait plutôt aller boire des bières avec des potes au bistrot. Mais quand on dit du golf, du tennis, vous voyez, tout de suite, ça fait plus sérieux. C'est mon droit, on est d'accord. Peut-être que mon devoir de père, c'est d'aller m'emmerder dans les gymnases dans lesquels ils font des sports dont je ne comprends pas les règles et d'applaudir. Mais peut-être qu'eux pensent que leur droit serait que je leur foute la paix le week-end et les laisser faire leur sport. Et les droits et les devoirs, c'est compliqué. Parfois, les droits s'entrechoquent. Le droit de la mère à accoucher sous X, le droit de l'enfant à connaître ses origines. Compliqué. On essaie de trouver des espèces de solutions alternatives. Le droit de l'enfant d'être élevé par ses deux parents, le droit des parents de divorcer. Compliqué. Donc les droits et les devoirs, on est dans du subjectif, c'est de la philo, et parfois, pour être en accord avec ses devoirs, on doit se mettre en désaccord avec la loi. On peut citer, parce que l'exemple est magnifique, Cédric Héroux dans la vallée de la Roya, chevrier chez Emmaüs, qui récupère des mineurs sans papier qui passent la frontière italo-française, en catimini. Je crois qu'il est à 27 ou 37, je ne sais même plus, garde à vue, 17 condamnations. Quand il sort de la gendarmerie, il prend son kangou et il va chercher des mineurs en disant « Je sais que c'est interdit, mais c'est mon devoir. » Il se fout des ennuis. On est toujours plus à l'aise quand on fait son devoir. Vous connaissez Maurice Papon ? Enfin, pas... Il est mort, Marie-Mémé. Je ne demande pas si vous êtes... Voilà, vous connaissez Maurice Papon. Vous connaissez Jean Moulin ? J'aime bien les salles réactives. Et donc, tous les deux, ils ont fait leur devoir. Donc, a priori, vous êtes plus d'accord avec l'un que l'autre. Merci de ne pas dire lequel, parce que je serais parti pour des... Mais Maurice Papon a dit à la fin de sa vie, j'ai la conscience tranquille, je n'ai fait que mon devoir. Ce qui est vrai. On peut le regretter, mais dans certains sens, c'est vrai. Et Jean Moulin, on peut imaginer que s'il est mort torturé par la Gestapo, c'était pas pour déconner, c'est parce qu'il pensait que c'était son devoir. C'était pas une obligation, hein. Il était préfet, Jean Moulin, il aurait pu se barrer n'importe où, il aurait pu rester chez lui, cultiver des tomates. Il est parti parce qu'il pensait que c'était son devoir et il s'est investi. Il faut jamais oublier que le problème sur Terre, parce qu'on parlait de Cédric Héroux qui n'obéit pas, le problème sur Terre, c'est jamais la désobéissance. Les gens qui désobéissent font chier personne. Gandhi emmerdait personne, Mandela emmerdait personne. Moi-même... Excusez-moi, je ne peux pas m'en empêcher. C'est... Ceux qui emmerdent tout le monde sont ceux qui obéissent. Franchement. Hein, l'esclavage, c'est de l'obéissance. Le nazisme, c'est de l'obéissance. Les violences au sein du couple, c'est de l'obéissance. On peut faire une longue liste. Et donc, moi, j'aurais tendance à vous dire, arrêtez d'obéir. C'est votre droit. C'est prévu par la Constitution, c'est le droit de résister à l'oppression. Donc vous avez le droit de dire non et arrêtez de dire oui, parce que franchement c'est saoulant. Et arrêtez d'apprendre à vos enfants à dire oui tout le temps. Assieds-toi, mange ta soupe, va à l'école, voilà, fais un bisou à tata Monique. S'il vous dit non, elle pue, ça ne va pas vous plaire. Et après on lui demande quand son prof de judo lui met la main dans la culotte, qu'il ait le réflexe de dire non. Alors que depuis tout petit, il faut qu'il dise oui. Donc arrêtez de dire oui. Et dites non, c'est votre droit. Et arrêtez d'obéir. Parce que j'interviens aussi en école de police. C'est vous dire que pour les questions, vous pouvez vous lâcher. Hein, Mais les travailleurs sociaux aiment bien se présenter comme des rebelles. Beaucoup, hein, le côté, mon éthique. Bon. Et bien en fait, pas du tout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas corporation plus obéissante que vous. On vous sort un décret que vous n'avez pas lu, vous êtes au garde à vous. Et le décret du 16 août qui dit taisez-vous, vous avez compris, secret partagé. La loi de 2002, je ne peux pas dire de gros mots, non? Ah bah oui, mettez-vous d'accord. Donc là, non, on ne va pas dire, pas maintenant, un peu trop tôt peut-être. Oui. La loi de 2002, vous vous prosternez devant alors qu'elle n'est pas obligatoire. On vous a sorti un texte, vous êtes là, oh, oui, c'est beaucoup, vite. Comité de vie sociale, vite. Je pense que c'était l'effet nonos. Vous connaissez l'effet nonos? Moi j'ai un chien à la maison et je fais des barbecues. Pas avec le chien, évidemment. Il n'y a rien à bouffer de surprise. Mais non, c'est pas ça. Évidemment, même si c'est un chien bien élevé, quand il y a des saucisses, c'est tentant. Va te coucher. Petit à petit. Vous voyez le truc? Donc on lui file un nonos. Et pendant qu'il ronge son os, il fout la panne aux saucisses. Vont vous affiler la loi de 2002. Ensuite. On n'a pas touché à vos salaires, on a fermé des structures, on vous a rajouté des trucs, mais c'est pas grave, il y avait l'évaluation externe positive. Moins content. Et je vous rappelle que quand on fait des textes pour rappeler aux professionnels qu'ils doivent respecter les droits des usagers, c'est justement parce qu'il ne faut pas les respecter, c'est trop compliqué. C'est un peu le principe du contrat. Plus on met de chartes au mur, moins les droits sont respectés, évidemment. Quand on donne la parole à quelqu'un, c'est pour qu'il ne la prenne pas. Parce que la parole, on n'a pas besoin de nous la donner, on l'a. Donc les droits, on n'a pas besoin de les rappeler, on les a. Il faut juste laisser les gens les exercer. Et ça, c'est très compliqué dans les structures, de plus en plus, qui sont devenues souvent des zones quasiment non-droits. Et donc, nous avions nos droits et nos devoirs, de ce côté-là, je crois. D'autre côté, on a des obligations et des interdictions. Les obligations et les interdictions, comme leur nom l'indique, elles sont obligatoires. C'est-à-dire que quand on ne les respecte pas, on risque forcément une sanction. Il n'y a pas de sanction dans la loi de 2002. Et je vous rappelle que l'ANESM a toujours confirmé qu'il n'y a jamais eu, jamais, hein, une évaluation externe négative. Ce qui veut dire qu'Orpea, chaque maison de retraite Orpea, avait une évaluation externe positive. L'évaluation externe, c'était un peu comme le BAFA, tu payes, tu l'as. Hein. Ça coûte un bras... C'est du racket, et ça permet que les équipes pensent à autre chose. Probablement au détriment de l'usager. Et donc la première chose serait de respecter les droits fondamentaux. Et des enfants, et des parents. Pour les parents, ça s'appelle l'autorité parentale. Les départements, la ZEU principalement, ne respectent jamais l'autorité parentale. Très rarement. On demande l'avis aux parents. On ne demande pas leur avis, c'est un peu le contraire. On considère les parents comme des... partenaire, alors que c'est le contraire. Je vous rappelle que l'assistance éducative, c'est assister les parents dans leur rôle éducatif. Ça veut dire que c'est l'ASE qui est le partenaire des parents, et pas le contraire. Et donc on a tendance à leur dire, oui, mais ça on va le faire, c'est un acte non usuel qui n'existe pas dans la loi. Oui, mais ça non, ça vous signez, on va le faire. Et on les dépossède complètement de ce qu'ils sont, alors que la loi ne dit en aucun cas ça, puisque la loi passe son temps à rappeler que le juge des enfants n'a aucune compétence en autorité parentale, que seul le JAF peut réduire, limiter, aménager l'exercice de l'autorité parentale, que les décisions du juge des enfants ne sont que des préconisations. On présente ça aux familles comme une obligation et on impose absolument le respect à la lettre de l'ordonnance du juge des enfants, alors que ce n'est, comme la loi de 2002, qu'un outil donné aux équipes, le juge préconise que si les équipes utilisent intelligemment cet outil, ça permettra de régler ou d'améliorer la situation. Quand j'ai le temps, mais j'ai pas le temps, je cite souvent Montesquieu, qui est intéressant, Kant ou plein d'autres philosophes. Là, on va faire plus simple, Michel Berger. D'habitude, j'y vais doucement, je commence petit, puis on monte. Et donc Michel Berger, dans Résiste de France Gall, tant de liberté pour si peu de bonheur. Et donc vous avez une énorme liberté, les parents ont une énorme liberté, vous avez en tant que citoyen une énorme liberté, et en tant que professionnel ou en tant que citoyen, vous n'en utilisez pas le centième. Ce qui est dommage, parce que plein de choses que vous pensez obligatoires, plein de choses auxquelles vous dites oui, n'existent pas dans la loi. Mais ça devient des normes. Ça devient des semi-obligations imposées par on ne sait pas qui. Le truc, c'est que plus il y en a, plus il y en aura. Vous voyez, jadis, on demandait la signature d'un parent. Maintenant, on veut systématiquement la signature des deux parents, ce qui n'est pas légal. Qu'est-ce qu'on va inventer après? Je n'en sais rien. Mais on va inventer un truc pour compliquer encore un peu le machin. En fait, on a l'impression que il me semble que la vie des gens que vous encadrez, que vos collègues encadrent, qui sont handicapés, jeunes, vieux, enfants, ce que vous voulez, ils ont quand même souvent des vies compliquées, voire parfois fracassées. Et il me semble que tous les acteurs devraient faire un peu comme du curling avec eux. Vous connaissez le curling? Je ne sais pas comment on joue, mais ce que je vois, c'est qu'il y a un parquet, on lance une quille, on pousse une quille, il y a un mec devant, il balaye. Il balaye pour que la quille avance. On a l'impression qu'il lui simplifie la vie. N'avez-vous pas l'impression que c'est ce qu'on devrait faire avec tous les gens pris en charge, leur simplifier la vie, c'est-à-dire balayer devant eux, alors qu'on fait le contraire? Nous, on a de l'humour, on leur fait faire un 100 mètres haies. Tu veux une signature? Tu veux aller te soigner? Signature. PPE. Tu veux faire du foot? Projet. Réunion. Juge. Tes parents. Ton père veut pas. Ah. Pourquoi on fait chier avec un PPE plutôt que l'inscrire au foot? C'est quoi le truc? Quel est le but? Pourquoi on emmerde le monde et pourquoi on ne respecte pas les droits fondamentaux? En même temps, ce n'est pas neutre, on ne respecte pas les vôtres non plus en tant que professionnel. Peut-être qu'il y a... Je ne sais pas, moi je ne suis plus éduc. Je me suis fait 15 ans de travail sur moi, je suis guéri. Donc maintenant je fais un autre métier. 15 ans quand même, c'est long. Mais la question est là, quoi. Pourquoi on complique la vie? Pourquoi on ne respecte pas les droits? Et pourquoi on n'arrive pas à comprendre que le droit, en général, donne plus de solutions, simplifie la vie, donne plus de solutions qui posent de problèmes. Alors qu'on le voit toujours comme un frein, qui est faux, mais on se crée des freins. Vous allez me dire que c'est fini?
Non.
C'est pas vrai?
Non, c'est pas encore fini.
Vous me laissez encore combien de temps?
15 minutes.
En oui, tout, donc ça.
Y compris...
Ah oui!
Oui, y compris question de la salle.
Hein. Y compris les questions de la salle. Donc juste si on fait un petit... On pourrait parler des droits des parents dans leur relation avec les services sociaux, etc. Mais on va plutôt se focaliser, si vous voulez bien, sur les enfants. Quand on dit enfants, mineurs, hein, bien sûr. Donc les mineurs ont quelques droits fondamentaux. Et à chaque fois que les droits fondamentaux d'un mineur sont concernés, il est plus fort que ses parents. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin de l'accord de ses parents. Un mineur a droit au respect de sa vie privée. C'est d'ailleurs compliqué pour les parents de savoir quand commence la vie privée de leur enfant. Et plus il grandit, plus c'est chaud. Est-ce que je surveille les mails de mes ados? Est-ce que je surveille leur fréquentation Facebook? Est-ce que je surveille leurs réseaux sociaux? Je m'immisce dans leur vie privée. Si je ne le fais pas, est-ce que quelque part, comme on dit, on disait jadis quelque part, est-ce que je ne les mets pas un peu en danger ou je ne respecte pas mon obligation de les protéger? Peut-être vont-ils faire de mauvaises rencontres. Est-ce que je surveille leurs amis? Est-ce que je surveille leurs déplacements? Ou est-ce que je les laisse tranquilles? En tout cas, les mineurs, quel que soit leur âge, ont le droit d'interdire à leur médecin de parler à leurs parents. C'est dans le Code de la Santé. C'est l'article R1111-6 du Code de la Santé publique. Un mineur, quel que soit son âge, peut dire au médecin « pas un mot à mes parents ». Donc si les parents arrivent, le médecin dira « je ne vous parle pas ». Un mineur peut interdire à ses parents d'accéder à son dossier médical. Une mineure peut avorter dans l'anonymat le plus total sans que ses parents soient jamais informés. Une mineure peut se faire prescrire et délivrer des contraceptifs sans que ses parents n'en soient jamais informés. C'est important pour préserver sa vie privée et aussi pour avoir une vie sexuelle. Puisque je vous rappelle que les mineurs ont le droit d'avoir des relations sexuelles entre eux, que le principe de majorité sexuelle fixé à 15 ans, c'est l'âge à partir duquel, 15 ans, l'âge à partir duquel un mineur peut avoir des relations sexuelles consenties avec un majeur qui n'a pas autorité sur lui, mais qui n'a pas de limite dans les relations sexuelles entre mineurs. Il faut donc que quand un mineur le souhaite, il puisse réellement avoir des relations sexuelles avec son ou sa partenaire. Très compliqué de lui expliquer l'aspect romantique du truc et le respect de la partenaire quand il faut qu'il tire un coup en vitesse dans les toilettes du collège parce qu'il n'a pas le droit de ramener un pote ou une pote dans la structure dans laquelle il habite. Compliqué après de faire de l'éducation sexuelle avec lui quand voilà. Je ne sais pas si vous vous souvenez des chiottes de votre collège. Il y en a qui se souviennent. Il y a quand même des endroits plus sympas. Bon, après, chacun son... On ne juge pas, hein. C'est comme les... Chacun ses pratiques. Je ne veux pas, voilà. Donc moi, dans la MEX que je dirigeais il y a fort longtemps, on avait une chambre de couple que les mineurs pouvaient réserver comme une chambre d'hôtel et qui enregistre. Et pour aller en couple, hein, vous avez compris le concept. Avec soit quelqu'un de l'intérieur, soit quelqu'un de l'extérieur. On ne peut pas lui dire, tu peux prendre un amoureux, tu choisis parmi ceux-là. Ça n'aurait pas été recevable, puis ça aurait pu être mal compris. Bon. Donc évidemment, non seulement le mineur pouvait découcher, mais il avait, du coup, on prenait contact avec les parents du partenaire, donc en général, Dieu, non, ça, non. Ou alors, il pouvait inviter son partenaire. Donc un mineur peut aussi avoir des relations sexuelles. Un mineur a le droit de prendre un avocat sans l'accord de ses parents. Évidemment, il l'opéra, alors je parle pas de l'avocat de l'ASE, de l'avocat désigné par le juge, etc., qui sont assez peu les avocats de l'enfant. C'est-à-dire, un enfant peut sonner à la porte d'un avocat et dire « bonjour, je cherche un avocat ». Ce serait d'ailleurs bien que les professionnels repèrent dans chaque département les associations d'avocats d'enfants et les avocats qui acceptent d'assister des mineurs, je ne parle même pas de défendre, d'assister, sachant que le mineur a de droit l'aide juridictionnelle. Quelle que soit la procédure, quel que soit ce qui se passe, il a droit à une aide juridictionnelle, et dans certains cas, l'avocat pourra demander la nomination d'un administrateur ad hoc, quand l'avocat aura besoin d'un administrateur ad hoc pour entamer ou poursuivre la procédure. Et un mineur a le droit de se soigner sans l'accord de ses parents, sans l'accord de qui que ce soit, évidemment, puisque le droit aux soins est un droit fondamental reconnu par la Constitution française, par tous les textes internationaux, et que, en pratique, les autorisations de soins et d'opérer, qui n'existent pas dans la loi, vous disais-je, vont limiter ce droit et vont l'empêcher souvent de se soigner comme il l'entend. Psychologue en CMPP disant « je reçois un enfant et sa mère, j'appelle le père, si le père ne veut pas, on arrête ». Voilà. Étant bien entendu que si l'enfant se pend, j'espère que ce psychologue finira ses jours en prison. Il aura le temps de lire des livres de droit. Par exemple, les miens, mais... qui sont en vente libre et qui sont très bien. Là, pour le coup... Merci.
Eh bien, merci.
Je vous en prie. C'est gentil, mais c'est comme pour les soignants. Les applaudissements ne suffisent pas. Il ne faut pas s'en librairie après, hein, on est d'accord. Ouais.
En tout cas, c'est pour le moins décapant. Allez, quelques...
Tout de suite.
Quelques réactions. Oui. On vous... Allez-y. Je vous en prie.
Marie-Pierre Beauvillain, UDAF 78, hein, votre discours est vraiment passionnant.
Merci beaucoup.
On adhère vraiment en fait, très facilement et de façon assez évidente, il nous semble. En revanche, tenir ce genre de discours en tant que salarié dans nos équipes et face à nos responsables, c'est un peu plus compliqué. Donc voilà, on aimerait avoir des pistes pour comment se défendre avec des arguments tels que ceux que vous nous présentez face à nos responsables.
Alors déjà, arrêtez de les appeler des responsables parce qu'ils ne le sont pas. C'est pas une plaisanterie là. Enfin, je vous remercie pour de rire, ça me fait beaucoup, mais c'est pas une plaisanterie. Vos chefs sont pas vos responsables. C'est-à-dire, au bout d'un moment, vous êtes grand maintenant, vous êtes majeur, travailleur social certes, mais majeur. Et donc vous n'avez plus de responsables légaux. Donc ce ne sont pas vos responsables. Parce qu'en leur disant que ce sont vos responsables, vous entendez, vous, inconsciemment peut-être, que du coup, vous n'êtes pas responsable. Alors je demande à mon responsable, voilà, c'est un peu infantilisant, donc faut vraiment arrêter responsable. C'est sûrement aussi pour ça que vous êtes une extrême minorité, alors peut-être pas dans votre profession particulière, mais avoir une responsabilité civile professionnelle, puisque la plupart de vos collègues, quel que soit leur diplôme, sont absolument persuadés que le responsable est responsable de tout, et que quoi qu'il arrive, c'est le chef qui prend, ce qui est une aberration totale en droit. Donc il faut vraiment arrêter de les appeler comme ça. Et puis moi, ça m'embête qu'un chef se définisse par une posture passive. Je suis responsable, il me semble qu'un chef qui se définit par une posture active, j'anime, je coordonne, je dirige, je décide, je fais un truc comme ça, ça fait moins force d'inertie, quoi, si vous voulez. La liberté guidant le peuple, le tableau est connu, c'est parce que la nana, elle est seins nus, ça aide, mais elle est devant avec le drapeau, elle emmène la foule. Si elle était derrière, assise à un bureau, à signer des PPP ou des PPE, je pense pas que le tableau aurait eu la même carrière. Donc faut arrêter de les appeler des responsables, ce sont juste des chefs. Et c'est bien d'être chef, hein, je ne suis pas en train de remettre en cause le chef, je les aime pas, mais j'aime personne, moi, donc ça ne... Mais ce ne sont pas vos responsables. Émancipez-vous. En plus, c'est jour de grève, alors... Voilà.
Alors, oui.
Bonjour.
Bonjour.
Rebonjour.
Ben oui, on s'est déjà dit bonjour.
On s'est déjà dit bonjour. Bonjour, monsieur, comme la boulangère, enfin, j'en rajoute un petit peu. Juste une précision, j'ai du mal à vous suivre lorsque vous... poser de manière évidente que la loi de 2002 ne s'impose pas. C'est une loi, me semble-t-il, qu'elle est codifiée. Enfin, elle est,
oui,
et que
le divorce aussi est codifié, vous pouvez rester marié.
Certes. Bien sûr.
Je ne comprends pas le
sens de ma question.
Ben comme... si, je comprends le sens de votre question, alors, mais elle est codifiée.
Comment est-ce qu'une ordonnance du juge ne fait pas, ne s'impose pas non plus? Mais je pose la question, hein, ça m'interpelle,
Oui, bien sûr. Si vous allez voir le médecin, il va vous faire une ordonnance aussi.
Oui.
Ce n'est pas l'entôle si vous ne prenez pas le suppositoire, on est d'accord.
Hein. Oui, mais...
En fait, il faut simplement remettre chaque juge à sa place. L'ordonnance du juge des enfants, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, hein, l'ordonnance du juge des enfants s'impose à l'enfant et à la structure, pas à ses parents. Elle s'impose à l'enfant et à la structure. La structure doit utiliser les préconisations du juge des enfants pour travailler avec les parents.
Donc ne s'impose pas aux parents.
Non, parce que les parents ont l'exercice de l'autorité parentale.
Mais s'impose aux professionnels.
Oui.
D'accord.
Aux professionnels. Sauf que s'il y a une visite médiatisée et que le parent vous dit « Vous êtes gentil, je vais faire un tour, je vous le ramène dans une heure », il sort avec son enfant, il va faire un tour et on le ramène dans une heure.
Tout à fait d'accord, voilà. Cette précision.
Et si l'enfant est placé et que son père va le chercher en disant « je vous le ramène lundi », eh bien il va le chercher, il le ramène lundi. Si le parent est dangereux pour l'enfant, la structure aurait dû et devrait très vite saisir le JAF pour demander un aménagement de l'exercice de l'autorité parentale. C'est un peu comme le principe du permis de conduire quand on dit à un mec bourré « quand t'es bourré, tu conduis pas ». Promis. C'est quand même mieux que lui prendre les clés, si vous voulez. Tant qu'il a les clés, il y a un risque. Et donc, l'exercice de l'autorité parentale se suspend comme le permis de conduire peut se suspendre, pour prendre une image assez simple. Et donc, il n'est écrit nulle part dans toutes ces lois codifiées que les décisions du juge des enfants limitent l'autorité parentale et surtout pas son exercice. Et la Cour de cassation passe son temps à rappeler le contraire. Donc, tant que les parents ont l'exercice, ils l'exercent 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et c'est pareil pour un divorce, où les droits de visite et d'hébergement ne sont plus qu'indicatifs depuis 1993. En ce qui concerne la loi de 2002, la loi de 2002 crée des outils qu'elle ne définit pas, puisqu'ils sont définis par des annexes. Donc moi, j'ai un copain qui a une maison d'enfants à caractère, qui dirige une maison d'enfants à caractère social, qui n'a pas voulu s'emmerder avec le livret d'accueil. Et donc, il a un livret d'accueil assez simple, c'est une feuille de papier, livret d'accueil, bonjour. Et à chaque évaluation... positive, évidemment, puisqu'il paye, il a comme commentaire étoffé le livret d'accueil. En même temps, j'ai fait une intervention dans une UDAF qui m'a filé son livret d'accueil, il devait faire 1,5 kg, écrit en police 11. Je vois tout de suite la vieille sous tutelle, contente d'avoir son livret d'accueil. Oh, de la lecture! Le projet éducatif de l'UDAF! Oh ah, quand il n'y a rien dans la télé! Voilà. Et le même copain, justement, le livret d'accueil, il le fait faire en BD par les enfants. Donc les enfants qui veulent, évidemment, reprennent des chapitres, des articles, et font un livret d'accueil en bande dessinée. Donc il a investi financièrement, il y a une salle avec du matos, en temps, enfin, etc. Et les enfants qui veulent réécrire le livret d'accueil, le réécrivent. Et puis, voilà, les enfants vont le lire dans une salle où il y a un linéaire entier de livret d'accueil avec des BD de tout type. Donc c'était des outils qu'il fallait investir. Et pour juste citer le comité de vie sociale, mon premier stage d'EduxP, ça doit être 86, dans les ancêtres des MEX, le directeur me dit, on n'a pas de budget, ça n'a pas changé, et les enfants veulent faire un séjour à la mer, et donc, ta mission, si tu l'acceptes, organise-nous un séjour à la mer sans argent. À l'époque, il n'y avait pas Internet, donc c'était compliqué pour trouver des adresses, donc si vous me permettez l'expression légèrement triviale, j'en ai chié, mais le hasard a fait que je trouve une ville de région parisienne qui a une maison à Villers-sur-Mer à côté de Deauville, qu'elle utilise pour des colos et qui va être libre 10 jours entre juillet et août, entre une colo et une autre colo. Et il nous la loue pour même pas une bouchée de pain, vous voyez, une demi-bouchée de pain. Donc je suis tout content. J'arrive avec des photos, je prends un plan, j'explique ça à ce qu'on appelait le parlement des enfants. Donc tous les enfants de la Mecque dans une salle qui écoute un peu distraitement. Donc j'explique, la mère est pas loin, voilà. Ils ont voté contre. Poubelle. Donc si le comité de vie sociale doit servir à quelque chose, c'est un excellent outil. Si c'est pour en faire un truc qui sert à rien, vous n'êtes pas obligé de vous ridiculiser à chaque fois qu'on vous dit qu'il en faut un. C'est-à-dire soit c'est un outil qu'on investit et c'est un très bon outil, soit on fait trois rencontres par mois ou par an, j'en sais rien, avec des biscuits et un thé, et vous ridiculisez juste en organisant ce genre de truc, quoi. Vous voyez, c'est ça le seul truc. Ce sont des outils. Et alors il n'y a aucune sanction. Et l'ANES me confirme que toutes les évaluations externes ont été positives, même dans les pires des structures. Et moi qui fais beaucoup d'intras, j'ai des noms. Hein.
Allez, encore une ou deux questions.
Ah oui, pas plus.
Ou intervention.
Là-bas. Ah, deux, alors. Madame.
Bonjour.
Bonjour.
On s'est, Norbert Giuliani à PEA 34. On s'est penché sur un droit en équipe qui est très peu appliqué en protection de l'enfant. C'est le droit de la personne à être accompagnée par la personne de son choix tout au long de son parcours.
Ouais. Voilà. C'est une loi qui date de 84.
Par contre, le service a la possibilité de lui proposer un entretien individuel.
Qu'il a le droit de refuser.
C'est ça.
En fait, on lit les droits de quelqu'un qui est mis en garde à vue. Mais on lit jamais les droits ni des mineurs, peut-être pas quand ils viennent au monde, mais quand ils grandissent, ni des parents, ni on lit les droits de personne. Quoi, en fait. Et ce serait bien de leur dire qu'ils peuvent venir avec qui ils veulent. Ce serait bien de leur dire qu'ils ont accès au dossier et leur permettre un réel accès au dossier, pas par rendez-vous sur courrier avec un chef qui d'abord va trier ce qui est dedans. Ce serait bien que tous les documents qui les concernent soient dans leur dossier, pas dans le tiroir des professionnels au motif qu'ils ont besoin de garder des notes ou que voilà, etc., etc. Mais oui, c'est le droit d'être accompagné, c'est important. Et on le retrouve d'ailleurs, on parlait de l'avortement des mineurs tout à l'heure. Quand une mineure veut se faire avorter, elle doit être accompagnée d'un adulte de son choix, qu'elle choisit librement, qui ne sert à rien. Hein. Moi, je l'ai fait plusieurs fois des copines de mes enfants. Mes enfants jouaient à l'avocat au collège, au lycée, puis quand c'était trop compliqué, c'est sur moi que ça retombait. Et donc j'ai fait ça plusieurs fois. Pareil, un mineur peut s'exprimer dans toute procédure qu'il concerne, seul, accompagné d'un adulte de son choix ou assisté d'un avocat. Il peut effectivement à tout moment demander à un adulte de son choix de l'accompagner partout. Et on parlait de la parole des mineurs. Vous savez que dans un divorce par consentement mutuel, qui se passe de juge en fait, hein, qui se règle maintenant devant le notaire doit vérifier que l'enfant sait qu'il peut être entendu. Si l'enfant veut être entendu, le notaire est incompétent et renvoie le dossier devant le tribunal. Donc si les enfants ont de l'humour... Vous me faites chier avec votre divorce depuis 2 ans, on va le prolonger d'une année. Ça me fait plaisir, moi je paye pas l'avocat, vous oui, juste pour vous dire merci de m'avoir écouté.
Allez, une intervention.
Une dernière
encore.
Question.
Bonjour, donc bonjour. Je suis chef de projet au développement social, méthode d'accompagnement. Ouais. J'ai hésité à le dire.
Oui, je vous ai bien fait. Hein. Mais d'accord.
Et donc ma question, je voulais connaître votre point de vue.
Puisqu'on a peu
de temps. Peu de temps. Si, depuis que je vous connais, là, depuis un quart d'heure, oui. Sur les IP, les informations préoccupantes.
Ah.
Alors, il n'y a pas beaucoup de temps. Je vais juste parler de point de vue.
Mais non, c'est très très simple. Alors, c'est-à-dire qu'en fait, l'information préoccupante en elle-même, pas le travail qu'en font les départements après, mais l'information préoccupante en elle-même, elle permet d'informer l'administration qui s'occupe de la protection de l'enfance, en théorie, d'un enfant en danger ou en risque de l'être. Le souci, c'est qu'on l'utilise aussi quand un enfant est victime de maltraitance avérée, ce qui est encore une aberration, puisqu'en faisant ça, on offre à minima l'impunité aux coupables. Quand un enfant est victime de violences avérées, c'est-à-dire de violences dont le doute raisonnable et réfléchi que vous avez, pas les preuves, le doute raisonnable et réfléchi, c'est une formule de la Cour de cassation, que vous avez, vous, repose sur des éléments factuels. C'est plus une IP, c'est un signalement qui doit être adressé au procureur de la République individuellement. Donc si vous êtes trois à vouloir faire un signalement, il y a trois signalements qui partent, écrits « je », qui évidemment ne passent pas par votre hiérarchie, ne sont visés par personne, relus par personne, et ne vont surtout pas à la CRIP. S'ils vont à la CRIP, pour être évalués, la plupart du temps, les parents ne peuvent pas être poursuivis, parce que tout ce qui pourrait servir d'élément de preuve à la police a été salopé, un peu comme le gars qui marche sur les traces du voleur et qui dit « maintenant, faites-moi un moulage ». Et donc c'est pour ça qu'énormément d'enfants placés, qui ont vécu des choses extrêmement graves, voient leurs parents toujours à la maison sans aucune sanction, et sans que les mineurs ne soient jamais reconnus victimes. Par contre, ils sont victimes une deuxième fois, puisqu'ils sont placés, donc déscolarisés, privés de leurs potes, privés de tout ça, et qui se retrouvent en famille d'accueil, qui pourra peut-être changer, loin de tout, à ne pas forcément pouvoir faire le sport de leur choix. C'est essentiellement ce qui m'embête dans l'information préoccupante, c'est qu'on la confond avec un signalement, et qu'on lui envoie tout et n'importe quoi. Parce qu'on n'arrête pas de nous dire qu'une femme victime doit être reconnue victime, même 10 ans, 15 ans, 20 ans après, en étant souvent crue sur la simple affirmation de sa bonne foi sans une seule preuve, et que c'est indispensable pour qu'elle puisse se reconstruire. C'est dommage qu'on nie ce droit aux mineurs, parce que tant que leurs parents ne sont pas condamnés, ils ne sont pas partis civils, d'ailleurs ils le sont rarement, même quand les parents sont condamnés, puisqu'on oublie de leur prendre un avocat à manque de peau. Il y a même des services de l'ASE qui se constituent partie civile et qui empochent l'argent quand le mineur victime, on ne lui a pas informé qu'il pouvait faire ça et on ne lui a pas permis de le faire. Et donc le mineur n'est jamais reconnu vraiment victime, ce qui là est un véritable souci aussi. J'en reviendrai vous parler de protection de l'enfance, si vous voulez, un jour.
Hein. Oui, avec plaisir.
Merci. Mais je vous en prie, merci à vous.
Est-ce que... Est-ce que vous nous indiqueriez un texte, soit un ouvrage, un article ou un ensemble d'articles, dans lequel on pourrait vous retrouver avec le même ton?
Ah ben, mes livres.
Alors.
Et là, c'est pas moi, c'est lui, il me cherche. Hein. Ouais. Je suis désolé. Hein.
Pierre Brice, je voudrais quand même, pour l'information, vous avez tous dans votre pochette une liste de bibliographies.
Oui, oui. Ah.
Et j'ai envoyé la bibliographie de monsieur Pierre Brice Lebrun, dont vous l'avez tous dans votre pochette.
Oui, mais les titres que la bibliographie en question annonce paraissent évidemment pas du tout sur le même ton que l'intervention dont on a eu la chance de... Alors voilà. Merci.
Ouais, le prochain, je l'appellerai « Wesh, tu veux que je te protège ?»
Ouais. Oh mais... il est cool le daron quand même.